Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une critique dialectique des villes modernes autour d'un livre, donc Métromarxisme, un conte marxiste de la ville, du géographe marxiste Andy Merrifield. Et c'est un ouvrage donc qui est paru aux éditions Entremonde en 2019. Et pour en parler, nous sommes avec son traducteur, Julien Guasini. Bonjour.
Bonjour.
Il faut déjà dire que son intérêt, c'est que même si on n'a lu aucun des auteurs qui sont discutés dans cet ouvrage, c'est-à-dire Karl Marx, Friedrich Engels, Walter Benjamin, Henri Lefebvre, Guy Debord, Manuel Castells, David Harvey et Marshall Berman, eh ben on peut effectivement reprendre depuis le début. Il y a des éléments biographiques, une présentation originale de leur thèse. C'est un ouvrage donc qui se lit très bien, et on va revenir donc dans cette émission sur plus particulièrement certains auteurs. Donc on parlera moins de Marx et de Debord puisqu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions, et on parlera également peut-être un peu moins qu'on en aurait parlé normalement d'Henri Lefebvre, puisqu'on a déjà abordé la question de la géographie critique, et notamment celle d'Henri Lefebvre, dans une autre émission autour de villes contestées. Donc on va d'abord, peut-être faire une présentation générale de l'auteur et de l'ouvrage. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet auteur un peu iconoclaste, Andy Merrifield, donc, qui a aussi écrit un roman assez amusant où il raconte son voyage en France sur un âne. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet auteur iconoclaste et de son livre qui est aussi un peu iconoclaste?
Alors, je vais commencer par reprendre ce que tu dis sur le livre. J'espère qu'il y a des gens qui n'ont lu aucun des auteurs et qui auront la chance de lire ce livre-là. Et ça serait vraiment formidable de parler avec eux, parce que si on connaît ni Marx, ni Engels, ni Benjamin Lefebvre, etc., pas Castells, qui est très peu connu, ou Berman, qui a juste traduit récemment, le livre fonctionne vraiment comme un introducteur parfait. Et je pense que c'est tout à fait le projet d'Andy Merrifield qui, quand il décrit ce qu'il a voulu faire, donc le livre a été écrit en 2002, il voulait rassembler l'ensemble des éléments qui l'avaient amené à un certain point dans sa pensée. Donc il a une trajectoire un peu originale quand même, parce qu'il a vécu à plusieurs endroits dans le monde, il a enseigné parfois, et puis parfois il a été sans emploi, et il s'est beaucoup consacré à l'écriture de livres. Donc c'est une figure, un peu particulière dans le paysage intellectuel. Alors, c'est pas un révolutionnaire professionnel ou quelqu'un qui serait complètement à la marge, mais il a beaucoup écrit seul, en se donnant des projets, en lançant des projets avec son éditeur, et ça, c'en est un, donc c'est une espèce de somme. Bon, son livre qui s'appelle L'âne de Schubert, qui en anglais est The Wisdom of Donkeys, qui est donc la sagesse des ânes, est une traversée du massif central avec son âne. Et il raconte son histoire d'amour avec la figure de l'âne, en fait, avec l'animal, ce qu'il peut représenter. Et ensuite, il va faire cette longue digression, pérégrination autour de l'animal. Quand il fait ça, c'est un moment après ce livre-là, après toute une série de livres théorique un peu sérieux, où il a fait une rupture en fait dans son parcours intellectuel. Il est venu vivre en France, il a vécu, il a une maison dans la Loire, et il est allé notamment, comme il le raconte dans le livre, le chapitre sur Debord, dont on ne parle pas, il est allé directement voir les lieux, voir Champeau, où Debord a fini sa vie, etc. Donc c'est quelqu'un qui a un rapport très passionné à la question intellectuelle et un rapport très affectif. On le sent dans ce livre-là, c'est-à-dire que sa façon de décrire le rapport entre ces penseurs, huit penseurs et la question urbaine, c'est pour lui une histoire d'amour. Quand il dit un conte marxiste, c'est parce qu'évidemment il fait référence à un élément de la littérature qui est le conte des deux villes, Tale of Two Cities, de Dickens. Je pense que chez chaque marxiste, il y a cette ambivalence par rapport à la ville. C'est quelque chose qui prend Berman, on en parlera peut-être à la fin, où la ville représente un objet qui a une sorte de double nature, à la fois une possibilité d'émancipation, mais évidemment, dans ce qu'elle est et la façon dont elle est vécue, un moment aliénant, un moment d'oppression et un concentré des rapports sociaux qui représente évidemment un objet d'étude particulier pour les marxistes, mais quelque chose aussi d'un peu terrifiant.
Oui, justement, par rapport à ça, quelque chose sur lequel insiste beaucoup Merrifield et aussi dans la manière dont il lit ces différents auteurs, c'est que chez ces différents auteurs, il y a à la fois un dépassement d'une vision purement réactionnaire ou moraliste contre la ville. Donc on retrouve à la fois dans l'école de Chicago, donc qui décrit la ville uniquement comme un lieu d'atomisation, d'êtres humains sans qualité, etc. Dans la lignée un peu du romantisme allemand, de la nostalgie pour la communauté par opposition à la société. Et en même temps, quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans le marxisme, le marxisme-léninisme un petit peu guévariste, tourné vers la guérilla qui voit la ville comme un lieu des vices de la bourgeoisie, de corruption du prolétariat, donc une vision très moraliste de la ville. Et en même temps, évidemment, c'est aussi une critique d'une vision purement apologétique de la ville capitaliste, celle de l'urbanisme positiviste contemporain. Justement, je pense l'intérêt un petit peu de ce livre et des différents auteurs qui discutent et de la manière dont Andy Merrifield présente ces différents auteurs, c'est précisément, comme tu l'as dit, de montrer une ambivalence des villes modernes, à la fois l'ère de la ville rend libre, comme disait Marx, et notamment, il parle beaucoup, on va parler plutôt des grandes villes, pour le coup, qui l'opposent un peu aux petites villes, qui ressemblent plus finalement à la campagne, dans ce côté un petit peu, dans les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire notamment le fait que, dans une petite ville, les gens te connaissent plus, donc t'es un peu moins libre en termes de déplacement, de transgression des normes, de transgression de la pensée établie, et en même temps, effectivement, il y a plus de liens sociaux, plus de solidarité, on va dire organique. Tous ces auteurs, finalement, ils ont un amour des villes et en même temps une posture critique par rapport à elles. C'est intéressante aussi pour nous, aujourd'hui, qui sommes en majorité urbains, entre ces deux écueils d'une critique purement réactionnaire de la ville, de l'imaginaire du retour à la campagne, etc. Et d'un autre côté, une posture de pure fascination de la ville capitaliste. Comment est-ce qu'il pense justement tenir un petit peu ces deux bouts ensemble justement? Est-ce que c'est à partir de la formule de Berman justement sur le fait que tout se volatilise? Du coup, il y a à la fois l'expression de la dynamique du capitalisme qui restructure sans arrêt l'espace urbain et en même temps qui ouvre la possibilité d'une restructuration de la société, d'une transformation sociale.
Il part probablement de Harold Bruce Tan, c'est-à-dire qu'il commence... le livre, bien sûr, présente des auteurs dans un ordre chronologique, il faut qu'on le dise. Donc on part Marx, disons, les années 1840, et Engels, l'enquête même de terrain sur Manchester, jusqu'à Berman, qui est donc décédé dans les années 2000. Il y a des auteurs encore vivants, Castel, Servi sont encore vivants. Et le dernier ouvrage date des années 90, peut-être. Et les villes dont on parle ici, il faut les citer aussi, c'est quand même Manchester, donc une ville industrielle du milieu du 19e siècle, Berlin pour Benjamin, pour Lefebvre et Debord, c'est Paris, mais c'est Paris et pour Lefebvre, ça va être aussi Varennes, ça va être des villes plus petites. C'est intéressant, Lefebvre introduit une sorte de dialectique, sinon campagne-ville, en tout cas petite ville, grande ville, lui travaille vraiment sur ça. Debord, évidemment, est sur Paris. Castells, sur les mégapoles en général, il travaille plus de terrain. Bon, Harvey, c'est Baltimore. et Berman. Donc, pour revenir, à mon avis, le point de départ de Merrifield, c'est Berman, c'est New York. Et New York, quand Berman écrit, quand Merrifield rencontre la pensée de Berman, c'est le maelstrom. Donc, c'est vraiment la figure, comme tu le disais, où toutes les choses peuvent se volatiliser et se recomposer par elles-mêmes. C'est la ville fluide par excellence, la ville moderne et postmoderne, c'est-à-dire la ville qui se recompose sur sa propre fluidité et qui, du coup, à la fois ouvre des possibles de vie, des possibles d'insurrection, des possibles de lutte, et aussi n'offre jamais aucune stabilité sous la forme des anciens rapports sociaux, à partir desquels, dans les petites villes, dans la Gemeinschaft, sur lesquels on pouvait s'ancrer, sur lesquels on pouvait tabler le rapport avec la proximité, le voisinage. Mais, voilà, je pense qu'il part de Berman, du dernier chapitre, qu'il écrira à la fin, et il va remonter aussi loin que nécessaire pour établir cette généalogie, cette archéologie finalement d'une pensée. Alors, on dit en anglais, on dit urbanism ou urbanist, et en fait ce ne sont pas les urbanistes, ou ils ne pensent pas à l'urbanisme comme on peut le dire en français, puisqu'il est une science de la construction de la ville très technique. L'urbanisme au sens urbanism, c'est vraiment la pensée de la ville dans une vision de la ville. Donc il faut faire attention à ça si parfois on tombe sur des textes en anglais ou des traductions un peu faciles, un peu rapides peut-être. Il ne s'agit pas de penser l'organisation de l'espace en termes prescriptifs. C'est vraiment une analyse de ce qui se présente. Donc pour remonter aussi loin que nécessaire pour lui, il commence par Marx. Bon, on peut passer rapidement, peut-être qu'on connaît Marx, mais en tout cas c'est pas quelqu'un qui s'est attaché à l'objet ville dans sa spécificité. Celui qui le fait, mais qui le fait en même temps, et je crois qu'ils se rendent compte tous les deux là-dessus aussi, c'est Engels sur Manchester. Alors qu'est-ce que Manchester, au moment où Engels il débarque? Donc Engels a une usine à Manchester, patron d'usine, son père possède l'usine, plusieurs, etc., on le sait, et il va observer la ville à un niveau, comment dire, au niveau du bitume, comme on le dit un peu plus loin, ou comme le dit Berman, ou comme peut le dire Baudelaire, ce niveau d'observation de la ville. Il parcourt les quartiers ouvriers, parce que c'est une femme qui l'introduit dans ces quartiers-là, et il va les décrire vraiment précisément. Donc il fait cette analyse très intéressante dans La question du logement, ce qui est traduit par La question du logement en français, où il va décrire la structuration spatiale de la ville et sa circulation. Donc c'est déjà une pensée non seulement en termes de zonage, mais aussi en termes de flux. Parce qu'il va décrire la façon dont les avenues, les voies de circulation structurent le rapport à l'espace. Parce que le rapport à l'espace, donc statique, avec un ensemble de zones qui sont collées les unes aux autres, est aussi un rapport au temps. Parce qu'il décrit très bien que les voies pénétrantes permettent de se déplacer à une certaine vitesse de l'extérieur de la ville jusqu'au centre, c'est-à-dire de l'endroit où vit la bourgeoisie à l'endroit où elle rallie sa valeur, et qui est différente du trajet vécu par les prolétaires qui vont emprunter des voies plus petites. Donc, c'est déjà une question de l'espace et du temps, et c'est déjà une question de circulation, en fait, qui n'est pas théorisée comme ça, bien sûr, hein, il n'introduit pas la... On est au moment de la question du logement, pas encore dans les théorisations du capital sur les questions de circulation. Mais il y a déjà cette intuition que la structuration de la ville, en tant que lieu d'établissement des rapports sociaux et donc lieu de circulation des travailleurs et des marchandises, est un élément des moyens de production, évidemment. Engels, c'est le premier, dans le livre, mais je crois dans l'histoire du marxisme, c'est à peu près certain, à faire cette enquête de terrain qui va aboutir à une systématisation vraiment intéressante sur un problème particulier, sur la question du logement. Donc il décrit bien sûr des logements absolument atroces, il n'y a aucun doute qu'il est lui-même choqué de voir les conditions de vie des ouvriers mancuniens de Manchester à l'époque. Il décrit par exemple, donc, dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre, dans un de ces trous qui mesurait à peine 6 pieds de long et 5 pieds de large, j'ai vu deux lits, quel lit et quel literie qui, avec un escalier et un foyer, remplissaient toute la pièce. Dans plusieurs autres, je ne vis absolument rien. Toute cette foule d'étables, habitée par des hommes, était bornée sur deux côtés par des maisons et une usine. Et un tel quartier existe au cœur de la deuxième ville d'Angleterre, de la première ville industrielle du monde. Donc là, Engels exprime bon, son indignation. Bien sûr, ça ne nous intéresse pas en tant que tel, parce qu'on sait ce que produit l'indignation, des bons sentiments. Mais ce qu'il va faire après, c'est qu'il va établir les prémices du rapport entre urbanisation, industrialisation. Et donc, finalement, la question du prolétariat comme constitution, comme classe des ouvriers, est intimement liés à leur répartition géographique et non seulement à leurs conditions de vie matérielle, l'accès au logement et au type de logement, mais aussi au fait qu'ils soient regroupés sur des zones. Et à partir de là, ils vont générer, reconstruire des liens qui ne sont pas ceux du monde ancien. Justement, parce qu'ils ne sont plus dans la configuration du village, mais que quelque chose s'est déjà volatilisé et a été recomposé. Finalement, il assiste en quelque sorte à la constitution du prolétariat comme classe du capitalisme à Manchester.
Oui, ce qui est intéressant justement par rapport à ça, c'est, et Merrifield le précise, c'est que enfin, l'intérêt un petit peu de cette entreprise généalogique est d'étudier différents auteurs à différentes périodes. C'est qu'à chaque fois, ce sur quoi il insiste, c'est que ces penseurs marxistes, ils pensent la ville de leur temps. Ils pensent certes la ville de leur temps et aussi de leur espace géographique, et que finalement c'est pas une pensée statique qui repenserait le même objet voilà, d'une manière différente, mais c'est que cet objet il est lui-même en mouvement, et donc du coup forcément ils perçoivent des choses différentes en fonction de l'époque à laquelle ils sont et aussi de leur expérience intime de la ville, de leur manière d'approcher la ville. Il y a des approches effectivement très scientifique, distante, froide, entre guillemets, comme celle de Castells, et à l'inverse, une approche très romantique chez Benjamin, par exemple. Peut-être un truc qui est intéressant quand même, un élément intéressant quand même dans cette partie sur la question du logement, c'est que Engels fait une critique à la fois du proudhonisme, donc qui pense qu'on résoudra le problème de ces logements surpeuplés, de ces taudis, en incitant les ouvriers à devenir propriétaires.
Propriétaires, ouais.
Voilà. Alors que pour Engels, c'est évidemment pas une solution. Et après, d'un autre côté, il explique que la bourgeoisie, avec des réformes urbaines, ne peut pas résoudre le problème du logement parce qu'elle ne fait que repousser les taudis, les ouvriers plus loin, à la fois pour des raisons sanitaires, parce que la bourgeoisie ne veut pas vivre à côté de taudis qui sont...
Source de maladies, etc. Donc il y a aussi l'hygiénisme, la prophylaxie qui entre en jeu. Et on a le premier... en fait, on a une description du zonage, c'est-à-dire qu'on va avoir... assainir les ceintures autour des quartiers bourgeois, revient à rejeter plus loin. Ce à quoi on assiste tout le temps dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a un déplacement des bidonvilles et des zones les plus pauvres qui sont poussées pour des raisons, là par exemple, pratiquement à Manchester, pour les éloigner des endroits où vivent les propriétaires qui veulent se débarrasser des foyers infectieux. Et donc, il y a aussi cette vision très, finalement, biologisée du prolétariat.
Et aussi, ce qui est intéressant aussi chez Engels, et je ne pensais pas trouver ça chez Engels, mais il pense déjà à un phénomène qui a été théorisé par un marxiste géographe dans les années 70-80 sur l'idée de plus-value différentielle, c'est-à-dire que les centres-villes qui, au début de l'ère industrielle, concentrent le prolétariat dans des conditions misérables, etc., etc., ont du coup une valeur extrêmement faible parce que c'est des logements insalubres, mais par contre il y a une plus-value différentielle immobilière à tirer de si on détruit ces quartiers et qu'à la place on fait des grands boulevards et des grands immeubles bourgeois.
Ils n'ont pas d'anachronisme, c'est-à-dire qu'il n'a pas, s'il peut y avoir des intuitions, si nous on peut le lire maintenant, il n'a pas la lecture d'Harvey super intéressante qui est celle d'une stratégie vraiment, la bourgeoisie. C'est ça qui est, on en parlera un peu après, qui est vraiment spécifique au monde de la restructuration, c'est-à-dire à ce qui vient après les années 60. Mais si on passe à Benjamin va couvrir en gros trois espaces mentaux urbains. C'est Berlin, c'est la chronique berlinoise, donc c'est son enfance, Paris et Naples. Une chose intéressante que je ne connaissais pas, moi, par exemple, au moment de la traduction, c'est son texte sur Naples et sa vision de Naples. Alors, le chapitre sur Benjamin est intéressant parce que, alors, il contraste complètement avec ce qu'on peut avoir chez Engels, qui a une approche finalement quand même très systématique et qui va finir par donner des excès de systématisme qu'on connaît hein, après la mort de Marx. Engels, finalement, il fait quand même une sortie de route après. Et il nous donne des choses qui ont été assez regrettables. Benjamin a une approche sensible. Je dis quelque chose qui est évidemment un lieu commun sur Benjamin, c'est-à-dire qu'il a cette façon d'aborder le rapport théorique à l'espace urbain. La grande partie que je connaissais un peu avant de traduire ce chapitre, c'est le livre des passages, donc qui est traduit en français sous le titre « Paris, capitale du XIXe siècle ». Pour ceux qui ne connaîtraient pas, un énorme ouvrage dont l'histoire est en soi une anecdote révélatrice de la vie de Benjamin. Benjamin travaille sur ce texte pendant des années à Paris. Il travaille en bibliothèque, il prend énormément de notes. Et au moment de l'invasion de la France par l'armée allemande, il attend le dernier moment pour fuir. Et il confie le manuscrit à Georges Bataille. Et il fuit dans le sud. Il va essayer de passer la frontière. Et il traîne avec lui une valise qu'il essaye d'amener à travers les Pyrénées. Donc Benjamin ne réussit pas à traverser les Pyrénées. Il y a un problème administratif, un problème de papier. Il est désespéré et il se suicide. Et on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans la valise. Et ce que veut croire Merrifield, par exemple, par ailleurs, qu'il cite dans le dernier livre qu'il a écrit, il postule que dans la valise, il y avait un autre exemplaire de ce livre, du livre des passages, tellement il était précieux à Benjamin, il aurait eu un deuxième exemplaire dans la valise. Ce qui est impossible, étant donné la nature du livre et le travail que ça aurait demandé de faire un double. Très probablement, c'était d'autres papiers qu'il avait sur lui. Mais le livre représente une sorte d'apothéose, d'apogée dans le travail de Benjamin. C'est quelque chose qui n'est pas forcément abouti, qui est une collection de fragments, qui peut être assez difficile à lire. Alors, le passage est vraiment une métaphore intéressante de la modernité chez Benjamin, parce qu'il y a toute la lecture de la transparence et de la lumière. C'est-à-dire, c'est toutes ces artères dans lesquelles la marchandise va s'installer. Alors là, on a l'introduction du rapport à la marchandise dans l'espace urbain. Une chose qui, par exemple, qui est reprise de Baudelaire avec les images « Les yeux des pauvres », le poème qui est aussi chez Bergman, qui se trouve en vitrine, qui brille de tous ses feux, et qui, tout à coup, la concomitance entre les pauvres, les prolétaires, des gens de basse condition dans la ville, qui peuvent traverser ou se trouver au contact des éléments les plus luxueux et les plus clinquants. Donc c'est quelque chose, cette rencontre-là, il y a toute une métaphore de l'obscurité de la lumière, ou de la grisaille de la lumière chez Bergman, et aussi un peu chez Benjamin sur les passages. On rentre là, par rapport à Engels, dans le vécu de la ville. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas encore utilisé comme mot, c'est cette idée de vécu. Parce que l'expérience de la ville, le sous-titre du livre de Bergman, c'est « L'expérience de la modernité ». Donc ce qui est intéressant, c'est non seulement de le penser en termes de catégories, donc de savoir comment la ville peut être utilisée comme un moyen de production, comment le zonage, la plus-value différentielle, ça c'est des approches, comment dire, très systématiques, abstraites, mais il y a un vécu de la ville qui amène les sujets ou qui l'habitent à occuper certaines positions et les amène à faire certains choix, luttes urbaines. Donc c'est à partir aussi de vécu. Et Benjamin, évidemment, s'intéresse à ça, mais surtout parvient à le décrire d'une façon tout à fait unique. Je crois que Merrifield, lui, a beaucoup d'affinité avec la figure de Benjamin, parce qu'en discutant avec lui et en lisant ce qu'il en dit dans ce chapitre, Benjamin est quelqu'un qui n'a pas réussi à rentrer dans l'université. Il a échoué à obtenir un poste après avoir défendu sa thèse sur le tragique allemand. Et il est devenu une sorte de professeur privé. Et à un moment donné, il le décrit comme un nomade marxiste. Et finalement, il y a une sorte d'affinité. Il fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il écrit des livres à plusieurs endroits. Il fait des expériences. Bon, on connaît par exemple, là on est à Marseille, on connaît le texte sur la chiche à Marseille de Benjamin, qui n'a pas particulièrement d'intérêt théorique, mais par contre qui est très beau et qui est une façon aussi de poser la question urbaine, puisque ce qu'il décrit, c'est non seulement ce que lui va ressentir et ses réactions à un produit, mais c'est la façon dont il va traverser des ambiances. Hein, ça, c'est un terme qu'on retrouve dans un chapitre ultérieur, on ne parlera peut-être pas, mais l'ambiance, c'est un mot-clé dans la psychogéographie et dans la vision debordienne de la ville.
Oui, et par rapport à ça, c'est intéressant que tu t'insistes sur l'expérience de la ville, parce que finalement, y a en fonction des auteurs, une insistance plutôt sur l'espace vécu ou sur l'espace structuré par la logique du capital. Donc un petit peu ce qu'on retrouve chez Lefebvre entre l'espace abstrait, donc l'espace qui est produit par la logique du capital, par l'urbanisme, et l'espace différentiel, c'est-à-dire l'espace tel qu'il est vécu et remodelé aussi par les gens. Et en fait, finalement, même les plus théoriciens, les plus structuralistes d'entre eux, comme Castells, finalement, c'est aussi leur rapport à la ville, finalement, qui a façonné leur expérience, parce que Castells, par exemple, à un moment, s'est expatrié aux États-Unis, près de la Silicon Valley, et c'est sûr que ça a influencé sa trajectoire Ensuite, où justement il est devenu, il n'y a pas du tout une approche marxiste, enfin, il a défendu finalement la Silicon Valley. Il a, d'ailleurs, Andy Merrifield a une critique un peu acerbe de cette trajectoire de Castel. Si en même temps, par exemple, quelqu'un comme David Harvey aussi a été façonné par Baltimore, il n'aurait pas écrit, je pense, le même livre finalement s'il avait été ailleurs. Donc effectivement, on voit que il y a vraiment une importance de la contextualisation, pas seulement historique, mais aussi de l'expérience sensible finalement de ces auteurs, des gens. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est aussi qu'on prend conscience qu'il ne faut pas nécessairement opposer ces approches, c'est-à-dire une approche un petit peu à l'Harvey, de penser les logiques de restructuration de l'espace urbain par la dynamique du capital. Et en même temps, penser aussi la ville comme un espace vécu qui offre des potentialités de subversion, de détournement. Et là, effectivement, ça renvoie aussi à l'expérience situationniste de la ville dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Mais effectivement, c'est un aspect intéressant. Et justement, chez Benjamin, effectivement, il y a un petit peu ça, parce que Benjamin, évidemment, est critique de la marchandisation de l'espace urbain, mais en même temps, on voit que dans son expérience des passages, c'est-à-dire un peu de ces rues un peu commerçantes, on voit le contraste qu'il y a avec aujourd'hui les galeries commerçantes, c'est-à-dire des espaces qui sont intégralement marchandisés, pas propices à la rencontre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce qu'on peut opposer, c'est la vision, c'est que l'ambivalence, pour nous, n'existe plus. Je ne connais pas aujourd'hui de gens qui défendraient, qui chercheraient à analyser une ambivalence par rapport au centre commercial. Donc finalement, l'objet centre commercial a une trajectoire. L'arcade, le passage, c'est un centre commercial. Il en existait plusieurs dizaines, ou je ne sais plus combien à Paris, et les gens allaient circuler à l'intérieur. Donc on a vraiment, en termes de généalogie, on a le premier élément. Et alors qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a plus ce rapport ambivalent ? C'est la question justement de la possibilité d'émancipation qui s'ouvre à un moment donné de l'histoire. Comme tu dis, l'objet ville a une vie évidemment propre et qui suit les cycles du capital, du capitalisme. Et ce qui peut s'ouvrir à un moment donné se referme à un autre. Donc finalement, on va du livre des passages à la nuit des morts vivants de Romero, où il y a absolument plus de possibilités de penser une quelconque émancipation, un quelconque dépassement, un aller vers la lumière dans un centre commercial qui est par essence un lieu mort ou en tout cas de clôture intellectuelle et sociale. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Ben, ça, c'est... Le reste du livre nous amène du passage au centre commercial. Mais Harvey, il y a justement, c'est cité, je pense que c'est le dernier qui le cite. Berman n'en parle pas, mais Harvey en parle. Il parle d'un centre commercial à Baltimore. Et pour revenir sur le rapport entre Castells et Harvey, il faut quand même imaginer la différence de vécu entre, mettons, Barcelone, d'où il vient, Paris, Nanterre, 68, et la Silicon Valley, et quelqu'un comme Harvey qui vient de la campagne anglaise et qui va à Baltimore. Je ne sais pas si on réalise ce qu'est Baltimore dans une période post-industrielle, mais c'est un lieu qui est donc ravagé par une désindustrialisation massive, où la situation de la classe ouvrière n'est pas franchement celle d'un âge d'or, et dans laquelle Harvey va faire un travail de terrain. Ce qui est très important et qui est montré dans le livre, c'est que, un peu à la façon d'Engels, qui va au ras du bitume, Engels n'est pas un militant, il ne rencontre pas directement les gens, sauf des rapports personnels, mais il n'est pas dans un rapport, il ne s'insère pas dans un tissu urbain. Par contre, Harvey le fait. Et ça, c'est très intéressant, justement, de voir quelle lecture produit une insertion au niveau le plus bas et le plus ordinaire. C'est-à-dire, quand on prend place dans l'ordinaire, bon, on ne peut pas éviter de penser au mouvement des Gilets jaunes, donc qui est quand même une forme de critique de la vie quotidienne. Je reprends le titre de Lefebvre, qui est absolument incontournable. Et du coup, dans la suite du livre, là, on arrive donc à Lefebvre, justement, on a quelque chose qui va être, qui est au centre. Et je crois que c'est central aussi pour Merrifield, qui a rédigé la biographie d'Henri Lefebvre, qui paraîtra aux éditions Entre Mondes. Lefebvre, c'est la figure centrale, hein, ça occupe le centre du livre. Je pense que le chapitre est un peu plus long que les autres, peut-être. Évidemment, parce que c'est quelqu'un qui a consacré toute son énergie intellectuelle et même cette espèce de vie d'aventure à la question urbaine. Et puis bon, pour nous, c'est quand même la proximité, évidemment, directement géographique. Pour le coup, Henri Lefebvre vient du sud de la France, il a fait partie de la résistance ici, dans la région d'Aix. Il a eu une vie qui, pense, fascine vraiment l'auteur Merrifield, cette espèce de course, c'est les 400 coups de l'intellectuel français. Alors, le faire... ah oui, il y a cette phrase que je voulais citer, c'est ça. Le plus extraordinaire, c'est aussi le plus quotidien. C'est-à-dire qu'on peut repartir des catégories les plus élémentaires du vécu pour théoriser à des niveaux potentiellement plus complexes. Donc ça, c'est un projet quand même assez intéressant chez Lefebvre.
Et par rapport à Lefebvre, je pense que c'est quand même important de signaler aussi que... et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Benjamin et qui là, pour le coup, contraste avec Marx et Engels, c'est le fait que tous deux ont vu dans la Commune de Paris... le fait qu'on pouvait se réapproprier la ville, que voilà, la classe ouvrière pouvait se réapproprier la ville, la détourner, la refaçonner à son image. Donc il y a un peu une espèce d'expression radicale du droit à la ville d'Henri Lefebvre. Et c'est par exemple là que, pour revenir un petit peu sur Benjamin, que Benjamin répond un petit peu à Engels qui voit les transformations donc, des réformes haussmanniennes, c'est-à-dire le percement de grands boulevards qui vont... voilà, chasser un peu les ouvriers du centre-ville, qui vont les repousser dans les périphéries, donc un processus auquel on a assisté à cette période-là. Et Benjamin, lui, s'intéresse, quand il voit la Commune de Paris, il dit mais c'est pas un processus inéluctable, c'est avec une qu'il y a une possibilité de réappropriation, là pour le coup, dans la Commune de Paris qui était radicale, effectivement, même si elle a duré seulement 2 mois, de l'espace urbain par la classe ouvrière. Et Henri Lefebvre envisage aussi ça un petit peu d'une certaine manière. On sait qu'Henri Lefebvre a écrit un livre sur la Commune de Paris où cet aspect justement de la mise en exercice du droit à la ville est quand même assez important et où dans les deux cas, j'ai l'impression qu'ils vont aussi plus loin que Engels qui avait finalement parlé d'un peu de la ville dans une société post-capitaliste, mais comment dire, comme un problème un peu secondaire et dérivé, c'est-à-dire il faut dépasser le capitalisme pour résoudre le problème du logement chez Engels. Et Marx, lui, pour des raisons diverses et variées, appelait un dépassement de l'opposition entre la ville et la campagne, parce qu'il y voyait finalement deux espaces qui... il voyait dans cette opposition quelque chose d'aliénant, en fait, dans la campagne, comme cet espace un petit peu d'entre-soi, où tout le monde se voit... Ou des contraintes extrêmement normatives, et la ville comme un espace peut-être trop lié à l'industrialisation, au capitalisme. Mais on était dans des formules un peu générales, et finalement, qui ne pensent pas vraiment cette possibilité d'une réappropriation de la ville, alors qu'effectivement, chez Benjamin, chez Lefebvre, et puis aussi chez Debord, il y a cette question-là. Et puis, bon, trouve aussi un peu chez Harvey et Berman.
Un passage assez intéressant, assez frappant dans le chapitre sur Lefebvre, c'est quand il parle de l'urbanisation dans le monde moderne, où il fait cette comparaison entre la ville nouvelle, Mourenx, et Navarinx, d'où il est originaire. Et Lefebvre, en fait, va circuler dans l'espace et décrire les choses qu'il voit et théoriser à partir de ça. C'est dans Introduction à la modernité, par exemple, il dit « J'arrive à Mourenx et je m'effraie ». Et c'est à partir de ça qu'il va évoquer, donc Lefebvre, toujours un pas Merrifield, qu'il n'y a pas de nostalgie de l'espace perdu. C'est-à-dire que ces penseurs-là, peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est « entérine la transformation ». Qui est déjà effectué par le capitalisme. Parce qu'il y a aussi une lecture de la catastrophe éventuellement, ou de la perte, qui pourrait dire qu'il existait le monde de la petite ville. Hein, c'est quelque chose qu'on a dans Berman, quand il lit, dans son premier chapitre, il lit Faust, et il oppose le monde de la petite ville à la grande. Il y a une dissolution. Mais cette dissolution, cette chose qui est volatilisée, on pourrait la lire comme un regret. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une mélancolie ou une nostalgie de ce qui a été perdu. Mais comme le dit Merrifield, il n'y a pas de recherche de l'espace perdu. Lefebvre n'envisage pas, plus que Marx ou Engels, la reconstitution de l'ancienne cité historique, donc Navarinx, qui est une cité médiévale. L'industrialisation et la modernité sont bien trop avancées. On prend acte de ce que le capitalisme a déjà produit, comme le manifeste communiste le faisait. C'est-à-dire que le rôle historique de la bourgeoisie, qui a déjà dissous tout un ensemble de rapports féodaux, et il n'est pas question de revenir dessus pour remonter l'histoire à des choses antérieures. C'est à partir du mouvement de dissolution, de volatilisation, qu'on va essayer finalement, la lecture révolutionnaire marxiste, c'est celle de donner à ce mouvement, qui de toute façon est en marche, une autre direction. Donc il n'y a pas de retour en arrière. Qu'est-ce qu'il y a pour Lefebvre ? Ce droit à la ville, c'est le droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée. La ville doit demeurer un espace de rencontre, un espace qui donne la priorité à la valeur d'usage, qui revient bien à des catégories fondamentalement marxistes, une inscription dans l'espace d'un temps promu au rang de bien suprême parmi les biens. Donc finalement, le droit à vivre l'espace inscrit comme un droit pour ceux qui y vivent. Seule la classe ouvrière peut être l'agent, le vecteur social ou le support de cette réalisation. Et c'est là qu'il revient sur la commune, comme tu le disais, avec ce mouvement de reprendre, de reconquérir la ville à partir des périphéries, à partir des faubourgs.
Et par rapport à ce que tu disais justement sur le fait qu'il n'y a pas de nostalgie, c'est là où effectivement ça contraste avec d'autres auteurs, par exemple, même s'ils sont assez intéressants et critiques, comme Lewis Mumford, où il y a quand même une nostalgie de la cité antique et médiévale. Et c'est là où, par exemple, voilà Benjamin, c'est ce qu'explique Andy Merrifield dans son chapitre, va réussir à tenir les deux bouts de la philosophie de la ville de Zimmel, qui pense à la fois la ville comme voilà, cet espace d'atomisation, d'aliénation, etc., et en même temps comme un espace qui ouvre des potentiels énormes en termes de liberté, de non-conformisme, etc. Et finalement, l'école de Chicago ne va retenir que la première partie de Zimmel, alors que Benjamin, lui, va réussir à tenir les deux bouts, tout en finalement penchant plus vers le deuxième. Et il y a finalement l'idée que la ville moderne, d'une certaine manière, elle doit être réappropriée, elle doit être détournée, elle doit être dépassée, mais elle ne doit pas être abolie. Il n'y a pas de retour en arrière qui est souhaité chez tous ces auteurs. Voilà, contrairement à un certain marxisme qui voue une certaine haine à la ville, alors un peu ambigu chez les bolcheviques, même si finalement la ville chez les bolcheviques devait devenir simplement un espace de production ultra rationalisé.
C'est l'usine sociale, c'est vraiment l'usine sociale, ça c'est décrit dans l'introduction. Ville comme grande machine. Qu'on retrouve, par exemple, il y a une continuité assez surprenante avec la pensée du Corbusier de la machine à habiter. C'est-à-dire que la standardisation, c'est un élément de la modernisation qui peut être éventuellement pensé comme, à un moment donné de l'histoire, plus maintenant, mais à un moment donné de l'histoire, comme neutre. C'est-à-dire si on s'empare de la standardisation, ça peut être un vecteur d'émancipation ou un vecteur d'aliénation. Et ça dépend du choix qu'on fait. Et ça, bon, ça correspond à un temps historique, je pense, qui est celui d'avant la restructuration, c'est-à-dire quelque chose qui déjà commence à dater. On peut imaginer que les éléments du progrès, donc la volatilisation des villes, la fluidité des transformations urbaines, la standardisation des formes d'habitat, sont des éléments neutres auxquels on peut donner un sens ou un autre selon comment on va les, quel joug on va les mettre. Donc finalement, si c'est le prolétariat qui s'empare de ces éléments-là, il lui donnera un sens, une impulsion, une direction qui lui est favorable et qui est favorable à l'émancipation de tous. Ce qui présuppose une forme d'humanisme inhérente à la classe ouvrière. Bon, et on ne va pas sortir du cadre peut-être de cette discussion, mais la question de l'humanisme et de savoir si le désir d'émancipation est inhérent au prolétariat, c'est quelque chose qui est sous-jacent à ça. C'est-à-dire que la possibilité de penser que la ville est un vecteur d'émancipation a aussi à voir avec quelque chose qui serait une forme d'essence de la classe ouvrière qui l'habite. Et parce que si on note cette dimension-là, il n'y a pas de raison de penser que les objets dont on hériterait ou dont on s'emparerait, qui sont ceux produits par la bourgeoisie et le capitalisme, pourraient prendre n'importe quel sens. En eux-mêmes, est-ce qu'une usine, donc une ville, n'est pas un ensemble ou un rapport social qui, de toute façon, ne peut pas être détourné ? Et la question du détournement, c'est intéressant, parce que c'est justement celle, on ne va pas s'éterniser, mais c'est celle de Debord. C'est la possibilité de transformer quoi ? Alors, on a parlé du vécu de la ville, mais finalement, une des spécificités du projet situationniste, c'est de vivre différemment. Et donc de vivre différemment sous la forme de situation, donc c'est les détournements, l'errance, la psychogéographie. Donc finalement, c'est de partir de la catégorie sensible la plus accessible, pas accessible forcément à n'importe qui, dans n'importe quelle condition, mais c'est d'introduire comme critique un vécu. Donc le fait de parcourir l'espace différemment, de le redécouper comme dans ce fameux plan de Paris psychogéographique ou de dériver à l'intérieur d'un espace déjà existant, serait en quelque sorte de le reproduire dans l'imaginaire, dans le symbolique, d'une autre façon. Donc il y a une recombinaison des éléments déjà donnés qui poursuit ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que bon, la ville se structure d'une certaine façon. Elle se structure sur le temps long, depuis le Moyen-Âge, la dissolution des rapports féodaux. Elle se structure sur le temps plus court, les quartiers de Manchester, etc. Elle s'organise autour d'axes de circulation. Elle se crée des villes nouvelles, comme l'envisage Lefebvre. Et donc, la critique situationniste, c'est celle de prendre ces éléments-là et de les recomposer pour les vivre différemment. Et donc, les vivre différemment seraient, en quelque sorte, très liés au droit à la ville, c'est-à-dire c'est une mise en application, une sorte de propagande par le fait de l'urbaine, de vivons la ville différemment maintenant, tout de suite, pour montrer ou pour en produire une forme de critique et donc de dépassement. Voilà, mais tu proposais qu'on passe, assez rapidement sur Debord, je crois que tu as raison, on le connaît bien, juste pour faire le lien. Tous ces gens-là sont liés autour de... Lefebvre, Debord, Castells, évidemment, ce qui les lie, c'est mai 68, hein, ça se joue là-dessus, mais ça se joue aussi théoriquement là-dessus. On sait que les situationnistes, Debord va condamner Lefebvre pour plagiat, hein, c'est vraiment l'exclure alors qu'ils étaient avant dans un rapport un peu de mentor-élève. Et donc, ils vont complètement se séparer à partir de là. D'une façon pas comparable, parce qu'on n'est pas à ces niveaux de théâtralité révolutionnaire, mais entre Castells et Lefebvre, il y a aussi un schisme. Mais le travail de Castells, dans le premier temps, avec La question urbaine, son grand livre de 72, on est vraiment dans la continuité du projet de Lefebvre. Une analyse des rapports urbains, des rapports sociaux, quelque chose de très précis. Alors, je dis ce que Mary Field nous présente dans son ouvrage, et il le fait d'une façon, encore une fois, je reviens sur ce que je disais au début, avec une générosité et vraiment une affection. Je ne pense pas qu'il aime particulièrement Castells pour ce qu'il est devenu par la suite. Bon, mais il y a une sorte de rupture épistémique chez Castells, où à un moment donné, il prend un autre chemin. Mais quand même, il y a une affection vraiment marquée de Mary Field pour la pensée qui est produite par ces gens-là. Je dis maintenant, quand même, encore une fois, que lire quelqu'un qui a de l'affection pour la pensée qui est produite, ben, ça permet au lecteur de rentrer dedans d'une façon tout à fait différente. Justement, on n'est pas dans une distance, on est vraiment dans quelque chose de très très proche. Voilà, donc, bon, Castells, je pense que c'est le moment hein, quand même, où il y a la discussion des catégories althussériennes. Donc là, je me permets de ne pas trop m'avancer sur la lecture. C'est intéressant comme introduction incidemment à Althusser. Donc, il évoque idéologie et appareil idéologique d'État d'Althusser, considéré par certains encore aujourd'hui comme un ouvrage vraiment très intéressant. Avec ce chapitre, on a vraiment une possibilité aussi de toucher à cette question.
Et justement, ce qui est intéressant chez Castells, c'est notamment qu'il produit une analyse de Dunkerque, notamment, oui. Où il va faire une analyse de cette ville avec les catégories, justement, avec le concept marxiste de capitalisme monopoliste d'État. Comment est-ce que, justement, alors, Castells pense la ville à l'ère du capitalisme monopoliste d'État, à partir de la catégorie de reproduction, notamment?
C'est intéressant parce que le livre qui sort, c'est finalement un travail de recherche, hein, assez classique, mais qui s'appelle Monopoleville. Son axe, une chose qu'on a complètement évacuée aujourd'hui, à mon avis, dans la critique marxiste, il me semble, c'est la question du monopole. C'est 74. Donc on est à l'articulation, peut-être, entre une période, entre deux périodes, et la place de l'État par rapport au capital change. Donc la question du monopole, c'est la question de la redistribution, de l'organisation de la reproduction sociale. Là, il va analyser, donc Monopoleville, analyse des rapports entre l'entreprise, l'État et l'urbain à partir d'une enquête sur la croissance industrielle et urbaine de la région de Dunkerque. Et il fait ce travail, c'est un travail de terrain, c'est un travail de recherche sociologique, où il va vraiment aller lire un territoire particulier et une transformation, l'évolution de sa structuration sociale sur une période qui est charnière entre le tournant des années 70. La question du monopole, finalement, bon, ça peut se résumer assez simplement, je crois, c'est que les investissements très coûteux du type infrastructure sont pris à charge par l'État pour la reproduction sociale d'ensemble, mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas tout simplement pris en charge, privatisés, parce qu'ils peuvent être source de valorisation. Donc, la question qui est derrière, c'est est-ce que l'ensemble des conditions de la reproduction peut servir de valorisation? C'est une question théorique à laquelle on ne répondra pas ici, mais qui est sous-jacente à ça, c'est-à-dire la place de l'État dans les investissements qui sont réalisés, c'est la question de savoir si tout ce qui permet la reproduction au sens plus large et source d'une valorisation. L'exemple le plus basique, je vais prendre quelque chose qui est aussi dans Merman, c'est le modèle des infrastructures routières aux États-Unis. On veut construire un pont. Aux États-Unis, il y a un projet, une autorité qui construit le pont et ensuite fait payer la traversée du pont, etc. C'est pas le modèle qu'on a en France, où les ponts sont construits par l'État, en tout cas à cette période-là. Et du coup, après, il peut y avoir une vente des ponts, etc., mais c'est une prise en charge des éléments de la circulation, par exemple, qui est fait au niveau étatique. Alors, comment ça s'articule ? Il y a un peu un point de bascule, il me semble, dans cette période-là. L'État régule de plus en plus le système urbain suivant la logique de la classe dominante. D'accord ? Et là, c'est là où il introduit l'idée de planification urbaine. L'intervention de l'appareil d'État, là, ici de Castells, que nous nommons planification urbaine au sens large, entraîne une politisation presque immédiate de toute la problématique urbaine, puisque le gérant et l'interlocuteur des revendications et des exigences sociales tend à être en dernière instance l'appareil politique des classes dominantes. Ça, c'est dans la question urbaine.
Oui, donc finalement, ça veut dire que c'est pas simplement la logique du capital avec les logiques de plus-value immobilière, de spéculation, etc., qui restructurent l'espace urbain,
ouais.
Mais que notamment dans le capitalisme monopoliste d'État français, c'est l'État qui prend directement en charge la planification urbaine, en fonction non pas de l'impératif des capitalistes privés pris individuellement, les logiques de plus-value immobilière, mais plutôt en fonction de la logique de qu'est-ce qui est optimal pour le capitalisme privé en général, notamment dans cette région de Dunkerque. Et effectivement, on retrouve là la vieille question effectivement du rôle de l'État dans la société capitaliste, et que effectivement un des rôles de l'État dans la société capitaliste, c'est le fait que il serait un peu le capital collectif en idée, c'est-à-dire que il a cette capacité à représenter les intérêts de la classe capitaliste en général, à moyen et à long terme, et pas simplement, comme les capitalistes privés, de voir uniquement leur intérêt à court terme, donc qui serait plus effectivement une logique, pas forcément de planification urbaine, mais où l'espace urbain est sans arrêt retransformé pour réaliser de la plus-value immobilière. Alors que là, il y a une logique plus d'organisation, et qui est liée aussi un petit peu au fordisme, puisqu'on est encore dans une phase du capitalisme fordiste, où effectivement il y a un intérêt à la rationalisation des villes, on est vers l'espace productif, Dunkerque pour le coup il y a pas mal d'usines et tout.
Ouais. Il parle de consommation collective, et c'est le moment où il décrit la construction des grands ensembles. Le logement comme consommation collective, c'est-à-dire des choses qui sont planifiées à partir d'intérêts plus larges que des capitaux individuels.
Mais est-ce que dans cette idée finalement de consommation collective, il n'y a pas l'idée que la question du logement ne doit pas être pris en charge uniquement par les capitalistes privés, parce que justement ça ne va pas forcément correspondre par exemple au besoin en main d'œuvre du capital privé, peut-être les logements seront trop chers, donc il y aura une pénurie de main d'œuvre, et que finalement l'État, finalement en construisant des grands ensembles, va pouvoir fixer une force de travail nombreuse qui pourra servir les usines en fonction de l'offre, enfin en fonction de leurs besoins, et que ce sera pas compliqué d'une certaine manière de trouver ces ouvriers au moment donné.
Ça abaisse le fait de construire des grands ensembles avec des espaces de parking, avec des commerces intégrés, abaisse le coût de la reproduction de la force de travail. Donc dans ce sens-là, c'est ce que prend en charge l'État en planifiant sur une grande échelle. Chose que ne ferait aucun capital individuel ou groupe de capitalistes. Bien sûr, il y a des modèles où on va avoir, des ensembles résidentiels qui sont construits par tel et tel patron. Mais là, on a quelque chose qui dépasse cette échelle-là. Donc la consommation collective, c'est par exemple l'habitat de ce type-là, sur des quartiers entiers ou sur des zones. Et finalement, oui, il me semble que c'est quelque chose qui est typique de la fin de la période fordiste et qui va ensuite se transformer. Alors Castells, après ça, c'est fin des années 70-80, bon, là, il passe sur une autre perspective. Il rédige une thèse qui a été traduite en anglais mais qui n'a pas été publiée en français, qui s'appelle donc City, Class and Power, la ville, la classe et le pouvoir.
Qui ressemble quand même un petit peu au titre d'un ouvrage de Poulantzas.
Oui, juste après, bien sûr, il parle de Poulantzas. Il a publié sous la direction de Poulantzas dans La crise de l'État, Consommation collective et contradiction urbaine. Donc il poursuit cette lecture-là, ça c'est encore les années 70. Après, il fait son virage. Alors, je sais pas si on a envie de savoir ce que fait Castells après, quand il parle de la route démocratique vers le socialisme, quand il s'intéresse à l'eurocommunisme et toutes ces choses-là. Enfin, moi,
ouais, disons qu'on va dire qu'il va s'éloigner d'un marxisme révolutionnaire.
En tout cas, la rupture n'est plus une nécessité dans sa lecture. Où il va effectivement un peu dériver. Alors c'est l'occasion, puisque quand même un des intérêts du livre, revenant à ça, c'est pas forcément d'exposer l'intégralité de la pensée de tous ces auteurs, mais c'est d'être l'introducteur. Donc là, on passe par Poulantzas. Comme on est passé par Althusser, évidemment, Poulantzas, c'est pas très loin. Et il y a une évocation de son travail. Et puis, je pense qu'il faut qu'on avance jusqu'à Harvey.
Oui, justement, ce qui est intéressant du passage de Castells à Harvey, c'est que, bon, outre que c'est des personnalités très différentes qui vont avoir des trajectoires très différentes, puisque Harvey va rester un marxiste tourné vers l'émancipation, la sortie du capitalisme. Castells s'intéressait du coup quand même beaucoup à la question de la reproduction, comment est-ce que l'État, et là ça fait écho aux problématiques de Poulantzas, puisque Poulantzas va quand même beaucoup s'intéresser dans les années 70 au rôle de l'État, au fait qu'on est rentré dans un État autoritaire en France, et que, et ça c'est poursuit Althusser, que l'économie ne détermine pas tout, mais qu'il y a aussi une autonomie relative de la politique, de l'État dans le capitalisme.
Oui, alors je rappelle quand même que ce que dit Althusser, c'est que l'État, l'économie détermine en dernière instance, mais que l'heure solitaire de la dernière instance ne sonne jamais. Attention à la lecture, je me permets juste de dire ça, c'est qu'en même temps, la détermination, elle est en dernière instance, mais elle ne se produit jamais en tant que telle.
Et chez Harvey, il y a un déplacement de la question finalement de la reproduction à la question de comment est-ce que... Et aussi, c'est lié aussi à une autre période, c'est-à-dire qu'on arrive vers l'industrialisation et la restructuration du capitalisme des années 70 et le néolibéralisme. Et Harvey, lui, va penser comment est-ce que le capitalisme s'empare de la ville pour faire de la plus-value immobilière à travers tout un tas de mécanismes qu'on a déjà un petit peu abordé dans une autre émission. Peut-être qu'on peut parler quand même un petit peu, puisque dans l'autre émission, on avait parlé surtout de ses travaux fin des années 80, début des années 90, et puis après, peut-être que ce serait intéressant quand même de revenir sur le moment fondateur de Baltimore et son premier livre.
Oui, ce qui intéresse beaucoup Mary Field en plaçant Harvey après Castells, c'est la différence de trajectoire. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux personnes et à la façon dont leur formation intellectuelle, et il dit qu'ils n'auraient pas pu être plus différents dans leur découverte du marxisme et dans leur parcours intellectuel. Quelque part, Castells vient du marxisme, il est dans l'école, disons, marxiste française, il est, Nanterre, Lefebvre. Harvey arrive au marxisme, hein, c'est quelqu'un qui vient de la géographie pure et dure, c'est quelqu'un qui part de la carte, quelqu'un qui, dans sa formation universitaire, s'intéresse à la géographie régionale, à la géographie économique, à la géographie politique, qui parcourt lui-même le territoire à vélo. C'est une anecdote intéressante qui montre la façon de rentrer dans la question géographique d'Harvey. Il parcourt le territoire et il va finir par parcourir Baltimore. Et la thèse de doctorat de David Harvey me semble très très éloignée des considérations marxistes. C'est sur la culture du houblon entre 1800 et 1900. Et donc, ça repose sur un fondement théorique qui est celui de l'État isolé, la thèse de Johann von Thun sur l'agencement spatial de la production agricole. Quand on lit ça, on se demande vraiment comment il a pu arriver à poser des questions comme la plus-value différentielle. Et en fait, Mary Field montre vraiment le parcours. Il va lire un ouvrage qui n'a pas été traduit en français, qui s'appelle « Social Justice and the City », je crois. Quand on progresse dans les chapitres, on voit la pensée de Harvey passer d'une sorte de lecture classique, plus universitaire, avec quand même la question de la justice sociale, à des choses plus radicales. Il y a une sorte de point d'inflexion qui apparaît vraiment au cours du livre. Du coup, c'est vraiment passionnant d'avoir quelqu'un qui nous déplie le livre de... parce que déjà c'est pas traduit en français, donc on peut avoir du mal à le lire si on n'est pas forcé dans l'anglais, mais en plus parce que il y a une contextualisation des différents chapitres du livre de Darby. Il dit « Social Justice in the City » se compose en fait de deux livres en un, une thèse et une antithèse qui laissent place à une synthèse provocante, constituant en elle-même une ouverture radicale, stimulante et innovante. Alors la première partie, c'est ces formulations libérales réformistes. On a le Harvey, première mouture, comme on l'a traduit, sur la question urbaine, le problème de la justice sociale. La deuxième partie, l'antithèse, propose des formulations socialistes. Et alors après, bien sûr, il fait une synthèse. Il va vers quelque chose de, à mon sens, plus radical que son point de départ.
Oui, c'est vraiment une généalogie. Oui. Il part quand même du parcours biographique des
Absolument.
Auteurs et il ne va pas présenter la synthèse achevée, non. Mais il montre comment est-ce qu'on arrive à, aux travaux contemporains d'Harvey.
C'est ça. Alors, dans ce sens-là, il fait ce que peut faire de mieux un professeur qui n'est pas présent. Parce que sinon, on discute avec lui, c'est quand même nettement mieux. Mais il essaie de nous accompagner dans la lecture de la pensée de ces différentes personnes, dont David Darby, pas à pas et en suivant sa biographie. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et l'objet se prête à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le rapport entre une pensée marxiste ici et la ville comme vécue, et que c'est une question ambivalente, évidemment que le parcours de vie de chacun de ces penseurs est consubstantiel. À leur évolution. Et que présenter une synthèse aboutie, prendre les textes en eux-mêmes, ce qu'il conseille de faire dans la conclusion. Bon, en conclusion, évidemment, il liste les livres et dit « ne conseille pas de prendre la littérature secondaire, d'analyse, de systématisation qui finalement va faire l'impasse sur le vécu de ces gens. » Mais il va dire « voilà où est Harvey à tel moment. » Et puis, il va à Baltimore, et à Baltimore, il ouvre ce groupe de lecture du Capital pour les gens ouverts à tout le monde. Ce n'est pas du tout un groupe universitaire. Donc, il va y avoir des ouvriers, des chômeurs, des gens qui veulent lire le Capital avec lui. Et puis, il va aller à Paris, et à Paris, il va faire une lecture de l'espace assez différente. Il va s'interroger sur, par exemple, le Sacré-Cœur. Mais c'est parce qu'il est à Paris, c'est parce qu'il vit à cet endroit-là. Et donc, finalement, c'est une lecture qui est contestable théoriquement. Mais pour moi, je trouve qu'on peut difficilement faire mieux pour un livre qui présente une généalogie et qui amène à toute une gamme. Enfin, c'est extrêmement riche, le nombre de gens qu'on croise là-dedans. Comme je disais, je ne pensais pas au début de notre discussion, mais on rencontre Althusser au Poulain de Sas. Et on ne s'attend pas forcément à les croiser. Et on a peut-être envie de savoir ce qu'ils disent. Et bon, bien sûr, aussi des écrivains divers et variés. Par exemple, Baudelaire sur Paris, les pas de la Croix, Courbet, Zola, Blanqui, évidemment, puisque la plupart de ces gens-là, quand même, passent à un moment donné par une lecture de la Commune. C'est une sorte de lieu commun, pour le coup, mais c'est quasiment indispensable si on veut penser le rapport entre marxisme et question urbaine. On est quand même logiquement amené à se poser la question de la Commune. Mais comment on le fait ? Alors, il peut y avoir des lectures très, très systématiques ou des lectures en forme de pérégrination. Ceux qui vont vraiment utiliser, faire de la théorie avec les pieds, comme on peut dire en anglais quand on dit qu'on vote avec les pieds, c'est-à-dire qu'on ne vote pas mais qu'on manifeste. Donc faire de la théorie avec les pieds, c'est déambuler dans la ville pour aller chercher une dimension sensible. Alors ça me permet, parce qu'il faut qu'on finisse, de passer à mon avis, le point d'entrée de tout ce livre-là, qui est la fin. Et pourquoi pas, c'est tout à fait possible de commencer par le dernier chapitre. Marshall Berman. Alors, Marshall Berman était quasiment inconnu en France. Enfin, je crois qu'on connaissait un peu son nom. Mais surtout, l'an dernier, Entremonde a publié Tout ce qui est solide se volatilise, qui est son grand livre des années 80, qui est composé de plusieurs chapitres. Donc, je fais une petite parenthèse sur cet ouvrage-là, qui est plus gros que Métromarxisme, mais qui se lit avec vraiment une forme de gourmandise. Enfin, je veux dire, il y a tout le chapitre central sur la Russie, qui est merveilleux. Je pense qu'on ne s'arrête pas de tourner les pages. Et le projet de Berman, c'est celui qu'on retrouve chez Merrifield, assez systématisé et assez condensé. C'est celui d'une lecture de l'expérience vécue de la modernité. Ça, c'est le sous-titre. Et donc, finalement, la phrase « Tout ce qui est solide se volatilise », qui est une phrase tirée du manifeste communiste, c'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire cette constatation ou ce paradoxe permanent de la condition moderne, qui est celui que les choses sur lesquelles on appuie notre vécu peuvent se dérober et se recombiner. Et donc, c'est dans cette fluidité du présent qu'on essaie de penser, qu'on essaie d'arrimer des luttes, des critiques, des pensées, etc. Donc, Mary Field va décrire en fait le travail de Berman, qui est essentiellement centré sur New York. Donc, le grand livre de Berman fait aussi un exposé qui est un peu chronologique. Il y a une partie sur Faust, il y a une partie sur Baudelaire, il y a une partie sur la Russie. Et puis, il y a le grand chapitre sur New York, qui est une chose peut-être moins connue pour nous. C'est la reconfiguration urbaine de New York, à partir notamment du quartier natal de Berman, qui est une partie du Bronx, qui a été coupée en deux par l'introduction d'une grosse autoroute. Les coups de hachoir à viande, c'est l'image qu'utilise lui-même Robert Moses, qui est le penseur et l'urbaniste, pour le coup, du New York des années 50 et 60. Et Berman a vécu cette transformation de la ville, et il a pensé à partir de ça. Il écrit à un moment donné comment il est assis sur le bord du chantier. Il faut imaginer cette immense tranchée creusée dans son quartier natal, qui était donc un quartier principalement juif, où cohabitaient plusieurs communautés de gens installés là depuis plusieurs décennies, avec une vie locale, une vie de quartier dans le Bronx. Et Robert Moses met un grand coup de hachoir, c'est-à-dire qu'il va creuser à l'intérieur de la ville une immense artère. Berman décrit comment, à un moment donné, il se tient sur le bord du chantier et il a l'impression de regarder dans l'abîme. C'est-à-dire qu'il voit la ville éventrée et l'autoroute qui est en construction, et il est à la fois désespéré de la destruction de son quartier, et en même temps, il y a quelque chose en lui qui indique la possibilité justement d'une émancipation. Qu'est-ce que ça porte, puisque c'est une voie rapide, et la voie rapide, c'est la rapidité, c'est la fluidité, c'est l'aller de l'avant. Donc il y a une promesse, mais finalement le paradoxe, c'est le paradoxe qui existe entre la destruction réelle immédiate et la promesse qu'elle contient, sauf que peut-être nous rend plus amers, c'est qu'on a vu ce que les promesses avaient donné. Alors que la lecture des années 50-60, qui est le moment où les promesses sont formulées dans le compromis keynésien, dans la période fordiste, voire avant, 19e siècle, début du 20e siècle, évidemment, les promesses étaient différentes et elles se sont effectivement réalisées d'une façon assez positive parfois pour ceux qui les voyait se mettre en œuvre. Marsha Berman parle de la grande plage qui a été réalisée par Robert Moses, qui crée un espace, un littoral minimaliste, où il décrit quelque chose de très très beau. Mais en même temps, il fabrique, alors ça c'est très intéressant de voir le rapport à l'espace, c'est-à-dire qu'il y a cette grande plage qui est créée, ce grand espace de plaisir, divertissement. C'est pas du tout, du coup, un espace, un moyen de production, sauf à imaginer que le divertissement, le repos dominical servent à reproduire la force de travail, bon, c'est ce grand littoral. Mais les moyens d'accès à cet espace sont faits de telle sorte qu'ils ne peuvent être atteints principalement qu'en voiture. Donc on revient à l'idée de consommation collective, c'est-à-dire que ça va développer non pas les transports publics, donc on ne va pas avoir des lignes de bus qui vont permettre à des masses de gens de venir à moindre coût et ensemble se baigner ou se reposer sur le sable ou faire ce qu'ils veulent, mais on va avoir un déplacement individuel avec la voiture. Et il dit même, ce détail est quand même vraiment marquant, c'est que les ponts sont trop bas pour que les bus passent. Et donc là, on a quelque chose qu'en même temps, la promesse qui est là et la chose qui attire, qui miroite un peu à l'horizon, mais le chemin qui y mène est un chemin où il faut en quelque sorte baisser la tête pour passer sur le pont qui est trop bas. Et je trouve que c'est vraiment une sorte d'image qui englobe tout ce rapport ambivalent, c'est-à-dire que certes la promesse est là parce que si on le prend que sur un plan strictement objectif, la machine habitée de Le Corbusier est un très bel espace où on va pouvoir se rencontrer, on vit très proche les uns des autres, on n'est pas au niveau de la rue, il y a quelque chose qui nous en sépare, mais sauf que l'expérience vécue historiquement, c'est-à-dire la façon dont chronologiquement elle va se déployer quand on sera à l'intérieur. Et c'est là que, finalement, l'aliénation se poursuit, soit s'accroît. Et c'est là où les rapports sociaux authentiquement capitalistes vont se creuser. Je trouve que, voilà, c'est un peu cette image-là résume bien l'ensemble et résume bien le chapitre sur Berman, qui est passionné, hein, vraiment, qui est très romantique sur sa vision de la ville et qui est quelqu'un pour qui le marxisme est une aventure. il a écrit un livre qui n'est pas traduit, qui s'appelle Adventures in Marxism, où on voit sur la couverture, ça s'appelle beaucoup à vérifier, on voit Marx qui danse. Et donc pour lui, c'est vraiment cette idée que bon, le marxisme peut swinguer, on peut l'utiliser tout de suite. Et dans sa conclusion, il revient là-dessus, et il revient un peu sur l'actualité du marxisme, et c'était, il a écrit ça à l'époque des grandes mobilisations antimondialistes. Donc il revient sur Cialdini, sur Gênes. Il pensait que Marx revenait vraiment, qu'il faisait une sorte de
comeback.
De comeback, voilà. C'était pour reprendre l'image de danser sur scène. Voilà. Il revenait sur scène et qu'il pensait que les jeunes gens, tel qu'il le dit à un moment donné, allaient se réemployer ou ou reprendre la pensée marxiste un peu de la même façon que Bermann tout ça, comme une aventure, comme une romance un peu. Donc ça finit sur une note assez optimiste, un peu enlevée, alors qui est peut-être décalée, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas eu cette espèce de flambée comme ça, d'intérêt pour le marxisme depuis 20 ans. Mais bon, il y a des choses qui sont là et qui restent d'actualité.
Oui, bah, effectivement, c'est une bonne conclusion. Il y a aussi dans sa conclusion, j'ai trouvé une citation du poète William Blake qui résume un petit peu la manière dont Merrifield voit la ville. Il dit « fleurit la rose ou croissent les épines ». Donc d'une certaine manière que, il faut faire une critique marxiste, marxiste-libertaire, de la ville, de la manière dont elle est restructurée, par le capital, aussi de la manière dont elle peut effectivement détruire des solidarités qui avaient été construites, notamment à l'échelle d'un quartier, où elle peut chasser les pauvres toujours plus loin du centre-ville, elle peut consister en des opérations de gentrification, de plus-value différentielle, où on va raser un vieux centre-ville pour faire des habitations bourgeoises, des centres commerciaux, etc., où on va relever très vite les loyers et on va donc finir par chasser les classes populaires. Mais en même temps, il y a toujours une possibilité de détourner la ville. Alors, est-ce qu'on peut vraiment complètement se la réapproprier dans sa matérialité telle qu'elle est? C'est une question, parce que on sait, si la technique n'est pas neutre et quelle est la matérialisation du procès de valorisation du capitalisme, la ville aussi est cette matérialisation du procès de valorisation du capital, mais en même temps, elle se prête quand même toujours à des détournements, il y a toujours une possibilité, notamment dans l'émeute, qu'on abordera peut-être dans une autre émission sur l'ouvrage « L'émeute prime » de Joshua Clover. Mais je pense que ce qu'il y a de vraiment intéressant, je pense, dans ce livre, c'est de sortir d'une antinomie entre une critique réactionnaire et moralisatrice de la ville qui appelle finalement un retour à une campagne idéalisée, sans voir les inconvénients aussi qu'il y a eu historiquement dans les campagnes, même s'ils sont peut-être pas inscrits dans la nature même de la campagne, mais en tout cas, historiquement, on ne peut pas nier que dans la campagne, c'est plus dur quand on est racisé, quand on est une personne LGBT, quand on est politiquement dissident, etc., etc. Et en même temps, il y a une critique anticapitaliste forte, qui n'est pas non plus seulement dans une vision béate de la ville, mais il y a toujours une dimension critique, même chez les gens qu'on peut considérer comme les plus romantiques, les plus pro-urbains, comme Benjamin et Berman. Même si peut-être qu'une chose qu'on pourrait rajouter, c'est la question de on est dans une perspective de sortie mondiale du capitalisme. Voilà, la ville, elle pose là quand même la question que Marx posait déjà dans les années 1850-1860 lorsqu'il lisait Les Ligues et la rupture métabolique entre la ville et la campagne. Voilà, comment est-ce qu'écologiquement on arrive à faire vivre dans une société post-capitaliste une ville grande? Et donc, si la ville, elle est réappropriable, je pense, et détournable comme espace de contestation et comme espace vécu, la question de la transformation de la ville dans une société qui ne serait pas capitaliste se pose, et en plus se pose vraiment à nouveau frais quand on la relie à cette question écologique, la question du métabolisme, comment est-ce qu'on arrive à, finalement, et là on revient quand même à la question de Engels et de Marx, comment est-ce qu'on arrive à casser un peu cette dichotomie entre ville et campagne. idéalement en arrivant à garder les avantages des deux. Donc bah voilà, des vastes questions qui restent en suspens, mais je pense que effectivement c'est un ouvrage vraiment très bon, et d'autant plus si on n'a pas lu tous les auteurs qui sont présents. Et même si on les a lus, je trouve que ça les repense à nouveau frais. Bon, il y a des éléments biographiques qui sont importants. Par exemple, sur Debord, on connaît toute la psychogéographie, mais on comprend moins son rapport sensible au fait que, par exemple, il va s'éloigner de la ville au fur et à mesure de sa vie. Et je pense que ça a un lien aussi avec le fait qu'il va devenir un petit peu plus sombre, un petit peu plus pessimiste, voire, si j'étais un petit peu critique, un petit peu plus réactionnaire, on va dire, à la fin de sa vie, moins porté vers l'émancipation, mais plus vers une espèce de pessimisme anthropologique. Ça, c'est vraiment tout à la fin de sa vie, quoi.
En tout cas, si c'est pas sur sa personne, c'est son héritage. Que d'autres ont pu reprendre de lui cette espèce de tiring with the negative, de rester dans le négatif, ou de finir par s'y inscrire, mais de n'être plus que là-dedans. Si ça n'a pas été sa pensée à lui, qu'on connaît peut-être pas, parce que voilà, il n'est plus là, mais c'est ce qui a pu en demeurer. Et c'est intéressant aussi de souligner que c'est important de revenir à ce qu'ont écrit les gens et ce qu'ils ont vécu, pour ne pas se retrouver coincé avec des représentations que d'autres en font. Et il peut y avoir, sinon une simplification, en tout cas une sorte de systématisation, et c'est une chose dangereuse, moi je le redis encore une fois, même de la pensée de Debord, et une caricature qui est efficace, c'est-à-dire qu'à partir des simplifications qui sont faites, alors je citais Engels sur la fin de sa vie, il a quand même proposé un corpus marxiste assez bien organisé là-dessus, les simplifications sont dangereuses. Et avec Mary Field, parce qu'il y a ce rapport très affectif et biographique, eh bien on revient à la source, et c'est ce qu'il propose à la fin. Il propose de revenir au texte et de se faire notre propre idée. Comme on peut se faire notre propre idée des villes, on peut se faire notre propre idée de certaines pensées.
Voilà, bah c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Julien.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité. Il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.